Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
C'est un canular devenu légendaire, l'histoire d'une fausse panique collective largement exagérée. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la guerre des mondes.
Il y a 50 ans, les Américains découvraient un nouvel aspect du pouvoir de la radio. C'est en effet la veille de l'Halloween 1938 que le réseau CBS diffusait « La guerre des mondes », une adaptation du roman de George Wells réalisé par Orson Welles. Des milliers de personnes à travers les États-Unis avaient été prises de panique à cause du réalisme de l'émission.
L'extrait du Radio-Journal de Radio-Canada le 31 octobre 1988. 50 ans plus tôt, CBS diffusait à la radio « La guerre des mondes », une pièce inspirée du célèbre écrivain britannique George Wells. Au micro et à la mise en scène, son homonyme Orson Welles, qui fait croire alors aux auditeurs que les États-Unis sont envahis par des martiens. Effets sonores, faux bulletins de nouvelles, cris d'effroi. Selon la légende, des gens apeurés se seraient jetés de leurs fenêtres ou auraient fui en voiture. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée.
Mesdames et messieurs, c'est la chose la plus terrifiante dont j'ai jamais été le témoin. Attendez une seconde. Quelqu'un se hisse en dehors de l'orifice supérieur. Je vois sortir de ce trou noir deux disques lumineux. Est-ce des yeux? C'est peut-être bien un visage. Mon Dieu, il y a quelque chose qui sort de l'ombre et qui gigote comme un serpent gris. Maintenant, c'en est un autre et un autre. On dirait des tentacules. Ah, j'arrive à voir la chose. C'est grand comme un ours et ça brille comme du cuir mouillé. Et ce visage est indescriptible. Il m'est difficile de soutenir cette vision. Les yeux sont noirs et luisent fixement comme ceux d'un serpent. La bouche, en forme de V, laisse échapper une sorte de salive de ses bords sans lèvres, qui semble frémir et palpiter. Le monstre se déplace avec difficulté. Il semble accablé par la pesanteur. La chose se dresse. La foule recule. C'est une expérience extraordinaire.
Un extrait de La guerre des mondes, diffusé sur CBS le 30 octobre 1938, traduit ici par une équipe de Radio France, un extrait de l'émission Les jours du siècle. C'était en juin 1999 dans les archives de l'INA. Pour en parler, mon invité, Pierre Barrette, il est professeur et directeur de l'École des médias de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Il y a l'histoire réelle et puis il y a la légende, hein, des gens paniqués qui se jettent en bas des fenêtres, des voitures accidentées, d'autres qui tentent même de se suicider avant l'arrivée des Martiens. Comment expliquer que la légende ait pris le dessus?
Bien, je pense que beaucoup de personnes y ont contribué. Mm-hmm. Donc, l'événement s'est produit et dès le moment où l'événement a circulé dans les médias, a été repris notamment par les journaux, par les autres stations de radio, ça a fait comme une espèce de vague. Et comme on connaît le principe d'une vague, hein, ça va en prenant de plus en plus de force. Et il y a Orson Welles qui a jamais vraiment rien fait non plus pour démonter le mythe de cette extraordinaire vague de panique. Orson Welles, qui aimait beaucoup jouer sur la question de la vérité, de la fausseté, il aimait beaucoup les canulars, il aimait beaucoup l'illusionnisme. C'était un fan invétéré des grands illusionnistes au 20e siècle. Donc, c'est quelqu'un qui s'est amusé avec ça. Et étant donné l'auditoire qu'il avait, étant donné la portée de sa parole publique, bien, ça a contribué au mythe.
Oui. Tout à fait. Ben, un mot sur lui, justement, Orson Welles, d'abord, parce que les deux, deux Welles dans l'histoire, George et Orson. Alors, qui est qui?
Ben, H.G. Welles, oui. Celui qu'on appelle souvent George Welles, c'est un écrivain. Donc, on le considère généralement comme un des pères fondateurs de la science-fiction, avec Jules Verne, là, puis quelques autres du 19e siècle. C'est quelqu'un qui a contribué beaucoup à mettre sur la carte un nouveau type de littérature. On parle du tournant du 19e siècle, donc 1898. La plupart des romans s'écrivent à ce moment-là en fascicules, donc d'abord par extrait, sous forme de feuilleton. Mm-hmm. Et éventuellement, quand il y a un certain succès, quand il y a une bonne réception, ces œuvres-là, qui ont d'abord été publiées en feuilleton, sont publiées en roman. Donc, c'est le cas de La Guerre des mondes, qui obtient immédiatement un immense succès et qui va contribuer beaucoup à la notoriété de H.G. Wells.
Oui. Et puis, il y a Orson Welles, plus connu, celui-ci?
Oui, bien, Orson Welles est considéré comme probablement le plus grand génie le plus grand génie des médias au 20e siècle, parce qu'il a œuvré au théâtre, bien sûr. C'est considéré comme un très grand acteur de théâtre, un très grand metteur en scène de théâtre. On l'oublie parfois, parce que ça a été occulté par son chef-d'œuvre, Citizen Kane, qui est considéré par, je dirais, une bonne partie des critiques comme étant le plus grand film du 20e siècle. Qui est possiblement le plus grand film de l'histoire du cinéma. On peut être d'accord, on peut l'être, bien sûr. Mais c'est quand même quelqu'un qui réalisait son premier film. Bon, il avait fait des essais cinématographiques avant, bien sûr, mais c'est son premier long métrage, son premier long métrage de fiction. C'est la première fois qu'il s'attelle à un projet cinématographique de cette envergure-là. Et il en fait ce qui est vraisemblablement un chef-d'œuvre. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ça donne une bonne idée, je crois, de qui était Orson Welles. Tout ce qu'il a touché, c'est révélé extraordinaire. Parfois pour le mieux, bien sûr, comme dans le cas de Citizen Kane, mais parfois pour le pire aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile. C'est quelqu'un qui a eu des démêlés, beaucoup de démêlés avec les producteurs. C'était un créateur qui avait une vision très précise de ce qu'il voulait faire, et quand il n'arrivait pas à le faire, ben ça se passait pas toujours pour le mieux.
Dans ce cas-ci, il était tout jeune quand il fait l'adaptation de ce fameux roman, La Guerre des mondes. Ça raconte quoi, La Guerre des mondes?
La Guerre des mondes, c'est la première histoire d'invasion des Martiens. Aujourd'hui, ça nous paraît particulièrement banal, une histoire de Martiens. On sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de vie sur Mars, ou vraisemblablement pas, en tout cas pas au moment où on se parle. Il y en a peut-être déjà eu. Il y a des spéculations, mais au tournant du 19e siècle, il y avait des idées qui couraient parmi les scientifiques et parmi certains scientifiques assez avisés, par ailleurs. Il y avait des bruits qui couraient comme quoi il y aurait une vie sur Mars, parce qu'on pouvait observer certains phénomènes qui laissaient voir du mouvement. Et à partir de là, H.G. Wells a imaginer l'histoire d'une invasion des Martiens, qui est la première fois qu'on mettait en scène une histoire comme celle-là. Ça a eu beaucoup de succès, ça a eu beaucoup d'impact, et ça a lancé en quelque sorte une série de romans et d'œuvres qui ont imaginé comme ça des invasions venues de l'espace. Mais il a le mérite, en quelque sorte, d'être le premier à avoir fait ça. C'est une invasion des Martiens qui viennent sur Terre. On les appelle les tripodes. Donc, c'est des espèces d'êtres tentaculaires, multitentaculaires, qui sont capables de lancer ce qu'on appelle la fumée noire. Donc, ont des capacités, évidemment, extraterrestres, extraordinaires. Ont comme ambition de détruire tout ce qu'il y a sur la Terre. Et éventuellement, ça va bien finir. Je ne veux pas vendre le punch, mais ça va bien se terminer le roman, parce que les Martiens en question n'avaient pas prévu la question des bactéries. Ils n'ont pas de système immunitaire contre les bactéries terriennes, alors ils finissent par tous mourir eux-mêmes.
Finalement. Mais là, on est à ce moment-là, quand il y a adaptation par Orson Welles, il est, je le rappelle, il a à peine 23 ans quand il fait ça pour la radio. On est en 1938. Le contexte est important. On est vraiment à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un climat tendu à l'échelle internationale.
Il y a un climat très tendu dans les médias, dans les journaux, à la radio, on parle beaucoup de ce qui se passe en Europe. Donc, il y a cette tension-là. C'est la période, évidemment, c'est une période qui est marquée par le nazisme, et qui est marquée notamment par l'utilisation qu'ont fait les nazis, Hitler, on le connaît, de triste mémoire, l'utilisation qu'ils ont fait de la radio. Mm-hmm. Donc, il y a une crainte. Il y a une crainte dans la population aussi par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à l'utilisation des médias. Une crainte lié à la propagande, la propagande qui se développe en Europe. Et donc, c'est un climat qui est favorable, on peut le dire comme ça, qui est propice à l'éclosion d'une certaine forme de panique.
Avec aussi, c'est l'âge d'or des radioromans en même temps. On est avant la télé, en 1938.
Bien sûr. Donc, la télévision existe, mais elle n'est pas encore dans les foyers. Ouais. Elle existe dans certains endroits publics qui s'en servent comme une espèce de moyen pour attirer des clients, en diffusant des spectacles sportifs et tout. ça, mais elle n'a pas encore le rôle qu'elle va avoir à partir de la fin des années 40. La radio, par contre, est un média vraiment très, très important. Tout le monde a une radio. En fait, il y a des statistiques qui montrent qu'aux États-Unis, il y a plus de gens qui ont une radio que de gens qui ont la toilette dans leur appartement.
Ah oui, à la fin des années 30. Ouais. Ah oui, quand même.
C'est quand même quelque chose. Donc, ah oui. Tout le monde a une radio. C'est un passage obligé. Et la culture radiophonique, la culture de la radio est très importante. Les gens organisent leur vie beaucoup autour de la programmation de la radio.
Ben, l'image classique qu'on voit, hein, de la famille rassemblée autour du poste de radio. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'est adaptée la Guerre des Mondes et le 30 octobre 1938, ça donne ceci.
Le Columbia Broadcasting System et ses stations affiliées présentent Orson Welles et le Mercury Theater en direct dans la Guerre des Mondes de H.G. Wells.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years.
Nous savons maintenant qu'au début du 20e siècle, ce monde était surveillé de près par des intelligences supérieures à celles de l'homme.
Greater than man's.
Voilà, ça donne le ton, l'ouverture de cet épisode de la Guerre des Mondes le 30 octobre 1938. Alors, qu'est-ce qu'il veut en faire Orson Welles? Comment il imagine l'adaptation pour la radio?
Bien, c'est un élément dans une série. Hein? Le Mercury On Air, c'est une émission hebdomadaire où on adapte une œuvre de la littérature, une grande œuvre de la littérature différente à chaque semaine. Orson Welles, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans sa carrière théâtrale. Hein? On dit qu'il a monté sa première pièce de Shakespeare à 10 ans. C'est pas rien. À 23 ans, on pourrait penser que c'est un genou, là, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la mise en scène de pièces de théâtre. Il est lui-même un acteur shakespearien de premier plan déjà à 23 ans, est reconnu comme tel. Mais bon, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de plus payant, c'est pas nécessairement ce qui permet de mettre du beurre dans les épinards. Alors, il travaille aussi pour la radio, donc il met en place cette émission avec sa troupe de théâtre. Et donc, chaque semaine, ils adaptent une œuvre et c'est tout un dispositif, hein, avec orchestre en studio, les acteurs qui sont là pour faire les voix et tout ça. Habituellement, Orson Welles ne se préoccupe pas trop de la scénarisation de du scénario, de la mise en forme de ces œuvres-là. Il laisse ça à des équipes spécialisées, parce qu'il y a des grosses équipes qui travaillent derrière la radio à CBS à ce moment-là. Mais dans le cas de la Guerre des Mondes, ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas content du tout de ce que les scénaristes avaient produit. Et il a mis la main à la pâte lui-même. Il a repris le texte qui avait été fait par les scénaristes. Il s'est installé pendant une nuit. Il a tout réécrit. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'en faire cette espèce d'intervention radiophonique. Plutôt que d'être une adaptation d'une œuvre, il a décidé d'en faire une sorte de live on tape, là, de proposer comme une version actualisée. Et c'est ça, en fait, qui a généré l'impact qu'a ultimement eu cette émission-là.
Oui, parce que la radio est le médium de la crédibilité, puis on y ajoute des éléments bien connus, l'ajout de faux bulletins de nouvelles, ça ajoute ça au réalisme. Un extrait de ce que ça donne, encore une fois, 1938.
Mesdames et messieurs, nous interrompons notre programme de musique de danse pour vous présenter un bulletin spécial de l'Intercontinental Radio News. À 8h20, heure centrale, le professeur Farrell de l'Observatoire du Mont Jennings à Chicago, Illinois, rapporte avoir observé plusieurs explosions de gaz incandescents se produisant à intervalles réguliers sur la planète Mars. Le spectroscope indique que le gaz est de l'hydrogène et se déplace vers la Terre à très grande vitesse. Le professeur Pearson de l'Observatoire de Princeton décrit le phénomène comme étant semblable à un jet de flamme bleue tiré par un pistolet. Nous revenons maintenant à la musique de Ramon Raquello, jouant pour vous dans la salle Meridian de l'hôtel Park Plaza, situé au centre-ville de New York.
On l'entend, il y a une montée dramatique. Hein? Tranquillement, le danger s'installe. Il y a la musique, on interrompt, bulletin de nouvelles spéciales, et puis voilà, on reprend la programmation. On se dit, il y a quelque chose qui se passe, un peu curieux, un peu bizarre, inusité, mais tranquillement, ça s'installe, ça arrive.
Bien, on peut imaginer que les gens qui ont pris l'émission dès le départ n'ont pas du tout été paniqués. Hein? Donc, la majorité des personnes qui ont écouté l'émission, parce que l'émission a été présentée comme chaque semaine, comme une production du Mercury On Air. Et donc, tous les éléments de ce qu'on appelle un générique classique étaient là. Là où on pense qu'il y a pu y avoir un incident qui a provoqué cette situation un peu particulière, c'est qu'il y avait une autre émission en même temps. Hein? Une autre émission sur une autre chaîne beaucoup plus populaire qui était diffusée, qui, à ce moment-là, a laissé la place à un chanteur peu populaire. Je crois que c'était des airs d'opéra ou un truc du genre. Ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté cette émission, une émission très populaire, écoutée par des millions de personnes ce soir-là, et qui se sont mis à zapper, comme on le dirait aujourd'hui, donc à zapper la roulette de la radio, et sont tombés en plein milieu de l'émission, justement au moment où Orson Welles, avec son ton dramatique, annonce l'arrivée des Martiens. Et donc, ils n'ont pas eu le contexte. Hein. Ces gens-là, ces quelques millions, possiblement, là, de milliers ou centaines de milliers ou millions de personnes, n'ont pas eu cette contextualisation de s'ils avaient écouté l'émission depuis le début. Et donc, ça a probablement générer des effets de surprise et d'engagement beaucoup plus grands que ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu cette espèce de mouvement là, des auditeurs d'une chaîne vers l'autre.
Oui, tout à fait. Parce que, bon, il faut dire qu'il y a aussi l'effet de réalisme, le faux bulletin de nouvelles, vous l'avez dit plus tôt, il y a des orchestres qui sont là, il y a des bruiteurs, des comédiens, puis oui, c'est vrai, on sent la panique, en tout cas, quand les Martiens sont bien visibles, quand ils attaquent les humains ou quand ils débarquent, ça donne ceci, encore une fois.
Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. The whole field caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right.
Et la programmation est interrompue parce qu'on a perdu le signal. Évidemment, c'est les Martiens qui attaquent. Hein? Donc, c'est ce que va dire par la suite l'annonceur maison en disant « Désolé, on a perdu le signal. » Comment vont réagir les auditeurs? Parce que c'est là-dessus que s'est forgée la légende la suite. Là.
Bien, on le sait pas exactement parce que ça n'a pas été documenté véritablement historiquement. Donc, on s'est beaucoup basé sur les rumeurs qui ont suivi la retransmission. On s'est basé, entre autres, sur le bouche-à-oreille et puis les déclarations d'Orson Welles qui aimait bien en rajouter, puis laisser croire que ça avait créé là, un impact extraordinaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement des personnes qui ont effectivement paniqué. Il y a probablement des personnes qui sont parties à courir dans la rue, aller chercher du secours, aller au poste de police, des choses comme ça. De là à dire, comme on l'a dit systématiquement, qu'il y a eu des centaines de suicides, que les gens se tiraient en bas des ponts à partir de leur voiture... Je pense que ça se serait su. Hein? La légende tient beaucoup au fait qu'il y a un réalisateur de documentaire, une dizaine ou une quinzaine d'années après, qui s'est intéressé à l'événement et qui a interviewé des gens qui avaient vécu de près l'événement. Et il s'est concentré sur des gens qui avaient effectivement vécu l'événement de façon très dramatique. Ça a contribué à faire comme une espèce de caisse de résonance à l'événement lui-même.
Oui. Parce que vous l'avez dit, Orson Welles aimait bien jouer avec la réalité. Puis bon, ça alimente le mythe aussi. Hein? Il y a sans doute... un peu de chauvinisme là-dedans. Il va l'expliquer plus tard. En 1955, c'est tiré des archives de la BBC.
On entend cette petite musique qui joue, puis un présentateur qui arrive et dit « Désolé, mais nous interrompons cette programmation pour vous rapporter une nouvelle de Jersey City. Jersey City vient de tomber. » Nous revenons par la suite en studio, un peu de musique d'orgue, une autre interruption de programme, et ainsi de suite. Nous avons fait tout cela très soigneusement et en reproduisant exactement ce qui se serait passé et en essayant de rendre le tout le plus efficace possible. Mais nous ne savions pas à quel point cela serait efficace. Parce qu'à la moitié de l'émission, alors que l'on suivait le script écrit devant nous, nous avons vu dans la régie qu'il y avait beaucoup de policiers. Et de plus en plus, je ne savais pas à ce moment-là que j'étais devenu une sorte d'événement national.
Voilà, un événement national. Et il dira plus tard, dans la même entrevue, que des années et des années plus tard, en Pennsylvanie, il va se promener dans un village amish puis qu'il va rencontrer des gens qui s'étaient cachés là le soir de la pièce de théâtre. Bon, une question d'en rajouter un peu, mais j'en reviens encore à la même question. Est-ce que les médias, et parmi les plus sérieux, je voyais le New York Times, les journaux à Boston, ont largement exagéré les réactions de la population? Ouais. Pourquoi?
Bien, ils ont exagéré les réactions de la population. La presse écrite, entre autres, commençait à comprendre à la fin des années 30 que ce qui avait déjà été un monopole, le monopole de l'information aux États-Unis, est un monopole très lucratif, ils étaient en train de le perdre aux mains de la radio. Et donc, il y a une guerre qui s'était dessinée entre les médias écrits et la radio. Et donc, les médias écrits ont tout fait, en quelque sorte, pour démoniser le travail de la radio dans ses différents aspects, et en particulier par rapport à cet événement-là. Donc ça a très, très probablement contribué aussi. Là. Il y a un peu de mauvaise foi de la part des journalistes écrits. Puis il faut dire aussi qu'il y a toujours, un contexte d'accueil ces événements-là. Moi, je me sers de l'événement lui-même dans un cours que je donne depuis de nombreuses années qui s'appelle « Introduction aux théories de la communication » pour parler des questions de propagande et notamment parler des questions en théorie de la communication autour des foules. Oui. La peur des foules, la peur des... Tu sais, on parle des médias de masse. Ces médias de masse-là sont associés à des craintes importantes dans la population au tournant du siècle. Et là, ben, on a un événement sur lequel on peut mettre le focus et dire, ben, regardez à quel point, dans le fond, les foules paniquent facilement, à quel point les médias ont du pouvoir. Mm-hmm. Il y a une théorie en communication qui circule abondamment à ce moment-là, qu'on appelle la théorie de la seringue hypodermique, c'est-à-dire que les médias auraient des effets directs et très fort sur la population. Et ça, ben, on le voit un petit peu en Allemagne, avec le pouvoir qu'a la radio sur les esprits. Et donc, les gens sont prêts à entendre ce genre de conclusion-là. Ils sont prêts à accepter le fait que les médias ont des pouvoirs importants, puissants. Mm-hmm. Et donc, ben, je pense que beaucoup de personnes, et parmi ceux-là, des intellectuels, des théoriciens des communications, des sociologues, sont tombés dans le panneau d'avoir enfin un événement qui prouve leur pire diagnostic.
Oui. Et, est-ce que pas un peu un mépris de la population, de la part des élites, en disant, regardez comment ils sont incrédules, ils sont un peu niaiseux.
Bien sûr. À chaque fois qu'on a l'occasion de montrer à quel point la population est crédule, que les foules sont dangereuses, que les médias sont manipulateurs, mais c'est toujours les autres qui sont manipulés par les médias. C'est jamais nous, bien sûr. Oui. Donc ça a contribué. Et dans l'histoire du 20e siècle, dans l'histoire des théories de la communication au 20e siècle, c'est devenu comme une espèce de petit événement fort là, dont on se sert encore aujourd'hui pour justement montrer ce débat entre les gens qui défendent une utilisation rationnelle, normale des médias et ceux qui les présentent comme des épouvantails.
Et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, à l'ère des fake news puis de l'intelligence artificielle, parce que ce serait facile de reproduire ça aujourd'hui, ce serait beaucoup plus réaliste. Là.
À l'heure des écrans, écoutez, on entend tellement de choses catastrophiques sur l'utilisation des écrans. Nos enfants vont tous devenir des imbéciles. Moi, je prends toujours avec un grain de sel ce genre de panique morale. On les appelle les paniques morales. Quand l'Internet est apparu, là, on avait l'impression du jour au lendemain qu'un homme sur deux était pédophile, puis je trouve ça dangereux en général, l'utilisation qu'on fait, le discours qu'on a sur les médias. Un événement comme celui-là, ce que ça nous montre, dans le fond, c'est que quand quelque chose est nouveau, quand on ne connaît pas quelque chose, on doit attendre d'avoir un petit peu de recul et de laisser la science parler un petit peu avant de laisser plutôt parler ces paniques morales.
Mm-hmm. Parce que oui, c'était relativement nouveau, en tout cas en 1938, l'utilisation qu'on en a fait, l'adaptation qu'on en a fait de ce roman, La guerre des mondes par Orson Welles. Mon invité, Pierre Barrette, professeur et directeur de l'École des médias de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui Histoire, à la recherche Ariane Léonard, Annie Grichy, recherche d'archives Marianne Desbiens, Sophie Hélène Gibson, site internet c'est Ronald Georges, à la mise en onde de Jacques Lebrun, réalisation Jacqueline Castonguay. Si vous avez envie d'écouter ou bien de rattraper nos émissions, je vous le rappelle, vous pouvez toujours le faire sur notre site internet d'Aujourd'hui l'Histoire, ou bien sur notre application Radio-Canada Audio, c'est exclusif en balado. Et puis, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours un plaisir de vous lire sur Facebook, ou encore l'adresse suivante histoire@commercialradio-canada.ca. Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Bonne soirée, à une prochaine, au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.
Découvrez la programmation 24/25 de l'OSM
assister au grandiose concert d'ouverture, les Gourlieder de Schönberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.